Bonjour et bienvenue dans l'épisode 105 de votre podcast Vers ma vie, mon avis sur cette méthode pour perdre du poids et être en forme. Bonjour et bienvenue dans votre podcast Vers ma vie, l'émission qui vous aide à retrouver une relation apaisée avec la nourriture, votre corps, vous-même, les autres et le monde. Je m'appelle Alice, je suis coach de vie certifiée et j'accompagne des êtres humains sur le chemin d'un bien-être authentique et durable. Je suis ravie d'être à vos côtés aujourd'hui. Vous êtes prêts, prêtes à renouer avec les plaisirs simples de la vie? C'est parti! Bonjour et bienvenue dans cet épisode dans lequel je vais vous donner mon avis sur cette méthode pour perdre du poids et être en forme. Bon, en réalité, le titre de l'épisode est un petit peu mensonger parce que je ne vais pas réellement vous donner mon avis. En fait, ce que je vais faire, c'est vous donner des clés, des pistes de réflexion pour vous forger vous-même votre propre avis. Et oui, d'après moi, c'est vraiment très important de parvenir à développer son esprit critique, notamment quand il est question d'alimentation, de perte de poids, de santé et ce genre de choses. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a profondément, réellement aidée au fil des années pour tisser une relation à mon corps, à mon alimentation et à moi-même qui est vraiment bénéfique. Pendant très longtemps, je cherchais la méthode, la technique, le truc pour pouvoir maintenir un poids que j'avais envie de maintenir, un certain poids, un certain chiffre que j'avais envie de peser et pour pouvoir aussi être en forme, être en bonne santé, me sentir bien dans ma tête et dans mon corps. Le truc, c'est que j'ai compris au fil des années déjà que la méthode, la technique, le produit miracle n'existe pas. Et aussi, j'ai compris que moi-même, j'étais tout à fait acceptable et convenable telle que j'étais. Ce qui m'a permis finalement de faire des choix au quotidien et de continuer de les faire qui sont réellement en ma faveur. Aujourd'hui, je sais que je ne suis pas un problème à régler, que mon alimentation peut être celle que j'ai envie qu'elle soit, que mon corps peut ressembler à ce qu'il est. Je n'ai pas besoin de contrôler, d'intervenir, de monitorer, de compter, de calculer, parce que je suis convaincue que je peux très bien vivre ma vie sans chercher à me modifier et à me changer en permanence. Et ça, c'est réellement libérateur. Dans le passé, je n'avais pas cette croyance-là. Dans le passé, je pensais que qui j'étais n'était pas convenable, que je ne savais pas m'alimenter, que mon corps n'était pas un allié et que je devais sans cesse le transformer, qu'il n'était pas adéquat. Et donc forcément, j'étais pas confiante, je manquais d'estime de moi-même et j'allais chercher des solutions à l'extérieur de moi. J'étais très perméable à tous les avis, tous les conseils, tous les bouquins qui m'apportaient une nouvelle façon de faire. J'ai essayé plein de méthodes différentes, de techniques, de trucs, de produits, de crèmes, d'aliments pour pouvoir aller mieux, être en meilleure forme, avoir enfin un corps fin et musclé à vie sans aucun effort, ne plus jamais avoir une brûlure d'estomac, ne plus jamais me sentir fatiguée. Sauf que ça, c'est possible si on est un robot. Si on est un être humain avec un corps qui est vivant, qui est mouvant, avec un corps qui est composé d'un esprit, d'émotions, eh bien tout ça, ça va évoluer, ça va varier, ça va changer au fil des jours, des moments, des mois, des années. Je crois qu'une de nos plus grandes sources de souffrance, c'est cette idée qu'on ne devrait pas changer, qu'on ne devrait pas ne pas aller bien, qu'on ne devrait pas être épuisé parfois, qu'on ne devrait pas prendre du poids ou perdre du poids ou avoir mal au ventre ou que sais-je encore parfois. C'est cette idée que constamment, on ne devrait pas bouger, on devrait avoir un corps d'adolescent, d'adolescente à vie et qu'on devrait avoir un type d'alimentation plutôt rigide, plutôt contrôlé et que nos envies, nos besoins ne devraient pas varier au fil du temps. Et quand on croit ça, eh ben on ne se laisse pas la possibilité de s'accompagner, la possibilité de se laisser aller à vivre, en fait, tout simplement d'explorer le moment présent, d'être en lien avec ses sensations, avec son vécu, avec ses émotions. Là, ici, maintenant, dans l'instant, on est toujours dans le après, dans le futur ou alors dans le passé où c'était mieux. Donc, il y a quelque temps, plusieurs personnes m'ont demandé mon avis sur un nouveau bouquin qui fait assez fureur, qui propose une méthode pour perdre du poids, avoir la forme, ce qui est toujours la promesse, n'est-ce pas, de tous les régimes qu'on nous propose. Cette idée que on peut, qu'il est possible, avec la bonne recette, de pouvoir être ce robot qu'on a tant envie d'être. Parce que tout tend vers ça aujourd'hui. Les filtres sur les réseaux sociaux, rien que, vont vers cette idée d'un physique figé qui n'est pas vivant, en tout cas pas d'après moi. Donc plutôt que de donner mon avis sur cette nouvelle méthode, et je ne vais pas la nommer pour pas lui donner plus de place aujourd'hui sur le marché, sur la place publique, j'avais envie simplement de vous apporter quelques éléments pour vous-même faire évoluer votre réflexion par rapport à ça. Et puis bien sûr que je vais le glisser mon avis quelque part ici, parce que j'en ai un, et ça va être difficile pour moi de le mettre vraiment de côté. Donc, déjà, j'avais envie de revenir sur ce mot régime et de pourquoi on n'a pas envie d'être au régime et de comment déceler si on est au régime. Parce que pour moi, ça va nous aider finalement. En fait, c'est la base, le présupposé. Quand on va chercher une méthode ou une technique pour perdre du poids ou avoir le corps le plus fin possible et être le plus en forme possible, le plus en santé possible, le présupposé de base, c'est qui je suis, ça ne va pas, la forme de mon corps, ça ne va pas, je devrais être tout le temps bien et tout ce que je vous ai dit avant. Et je tiens à faire une parenthèse ici, mais qui a vraiment son importance. Si votre objectif, c'est de perdre du poids, si votre objectif, c'est de vous sentir en forme et de vous sentir le mieux possible, attention, je ne dis pas que ce ne sont pas des bonnes choses à vouloir. Je ne suis pas en train de vous dire que vous ne devriez pas vouloir ces choses-là. Déjà, moi, je ne suis pas là pour vous dire qu'est-ce que vous voudriez vouloir pour vous et votre vie, ou émettre un quelconque avis sur la manière dont vous décidez de vivre votre alimentation, vos choix en termes de santé, etc. Ce n'est pas du tout ma place. Vous faites absolument ce que vous voulez avec votre vie. Ce que j'ai simplement envie de souligner, c'est que quand on fait ces choses-là avec la croyance, encore une fois, que qui on est, ça ne va pas, ce n'est pas satisfaisant. Donc moi, ce que je vais remettre surtout en cause ici, ce n'est pas le désir, l'action, la volonté de changer son corps et de viser la santé sur le long terme. Je ne dis pas, voilà, c'est pas ça que je remets en cause et je ne dis pas que c'est ça qu'il ne faut pas vouloir. Après tout, on vit dans un monde grossophobe, santéiste, etc. Et du coup, on peut ressentir une pression à vouloir ces choses-là. Et puis, on peut avoir nos raisons pour les vouloir. Et c'est pas ça que je vais venir vraiment pointer du doigt. Enfin, encore une fois, c'est pas ma place. Moi, ce que je veux mettre en avant, c'est et surtout souligner, c'est quand on veut faire ces choses-là, parce qu'on croit qu'on doit se changer pour devenir la meilleure version de soi-même, pour devenir plus acceptable, pour devenir un meilleur humain, pour montrer aux autres qu'on n'est pas ce glouton, cette gloutonne, ou qu'on a de la valeur. Moi, c'est ça, en fait, que je viens ici mettre en avant. C'est vraiment cette intention derrière qui peut être source de souffrance. Parce qu'encore une fois, quand on croit que on n'est pas une bonne personne, qu'on n'est pas acceptable comme on est, c'est pas agréable de ensuite vouloir changer son alimentation, son exercice physique, mettre toutes ces choses en place. C'est pas vraiment ça qui va nous faire du bien. Et généralement, on le sent quand on est là dans le contrôle, quand on est là on lit toutes les étiquettes. On va calculer, compter tout ce qu'on mange, tout ce qu'on fait, on va sans cesse penser à la nourriture, on le sent que c'est pas agréable pour nous. Et donc moi, c'est vraiment ça hein, que je viens ici souligner, mettre en avant, c'est quand on fait cette action-là, celle de vouloir porter un regard très attentif sur ce qu'on mange et comment on bouge, parce qu'on est persuadé que nos bourrelets au niveau du ventre, ça ne va pas, que on devrait être tout le temps heureux, heureuse, et tout le temps prêt ou prête à vouloir décrocher la lune et les étoiles et faire bouger des montagnes et avoir cette énergie, cette vitalité, cette force avec le sourire et le corps mince et musclé, etc., etc. Tout ce que la société occidentale actuelle nous propose d'être. Sinon, on n'est pas convenable. Ok ? Donc ça, c'est vraiment très important pour moi de le souligner. Hein. Je ne veux pointer personne du doigt et vous dire que ce que vous faites, ça ne va pas. Voilà, je veux simplement, en fait, vous inviter à repenser votre relation à la nourriture et à votre corps sous un angle un peu différent. Et donc, la société aujourd'hui, en nous proposant que nos corps ne sont pas convenables, nous propose le régime. Et moi, je rencontre beaucoup de gens qui me disent « Mais moi, je ne suis pas au régime, je fais juste attention. » Et moi aussi, c'était ma croyance il y a quelques années. Je me disais « Mais attends, je ne suis pas au régime, je mange végétal et sans gluten. » Et cru, et sans sucre, après la liste, c'est rallongé. Et je ne pensais pas que j'étais au régime, je pensais réellement prendre soin de moi. Sauf qu'au fond, tout au fond, je crois que je savais que justement, comment je le faisais, c'était peut-être pas bénéfique. Je perdais mes cheveux, j'étais tout le temps fatiguée, épuisée, et pourtant je mangeais cru, vivant, etc. Et je me sentais vraiment pas bien dans mon assiette. J'évitais tous les repas en société. J'étais vraiment pas fun en fait, réellement. J'étais pas la personne qu'on avait envie de côtoyer, surtout pas à l'heure des repas. Et donc du coup, et ça je le savais, c'était à l'intérieur de moi, mais quand même je me disais ouais, mais on me propose toutes ces choses-là pour aller bien, ça devrait fonctionner. Si ça fonctionne pas, c'est que moi, ça va pas en fait, c'est vraiment moi le problème. Et donc tout ce que j'entreprenais en termes d'alimentation renforçait toujours cette croyance que qui j'étais, ça n'allait pas. Et donc, les techniques, les méthodes, les bouquins qui nous proposent une manière de manger avec un certain ordre, etc. Moi, je trouvais ça plutôt cool parce que je me disais, ok, là, je vais enfin trouver la solution. Sauf que quand j'étais là à suivre les recommandations d'un tel, j'étais au régime. Pour moi, donc, et je veux redéfinir ma notion là, qu'est-ce que j'entends par régime ou même restriction alimentaire, eh ben, c'est une manière de concevoir son alimentation. En fait, ça part dans la tête et après, ça va se traduire dans l'assiette. Mais ça part d'abord dans la tête. Donc pour moi, un régime, c'est très simple. C'est si quelqu'un me dit quoi faire, si je peux échouer ou réussir, s'il y a des bons ou des mauvais aliments, des bonnes ou des mauvaises pratiques, eh bien, c'est un régime. Donc, ce qui va être rééquilibrage alimentaire, ce qui va être alimentation ceci ou cela, avec ceci ou sans cela, si ce n'est pas guidé par des ressentis internes, mes signaux internes, si c'est quelqu'un d'autre qui m'aura dit qu'il faut manger comme ça ou qu'il ne faut pas manger comme ça, si je culpabilise quand je n'ai pas fait les choses bien, entre guillemets, pour moi, tout ça, ce sont des régimes. Parce qu'en réalité, quand il y a des règles comme ça à suivre, ça ne fait pas du bien. Si je peux louper, si à la fin de la journée, j'ai l'impression d'être la dernière personne, la personne la plus nullissime au monde parce que j'ai encore craqué en mangeant du chocolat, pour moi, c'est un régime. Et donc, un régime, pourquoi on n'en veut pas dans sa vie ? Bien, déjà, parce que ça nous déconnecte profondément de nos signaux internes. Ça diminue énormément l'estime de soi, la confiance en soi. Ça nous maintient dans un système de contrôle, de restriction qui va se retourner contre nous au bout d'un moment. On va craquer. Et si on ne craque pas physiquement, parce qu'on a un mental tellement fort qu'on ne craque pas physiquement, c'était plutôt mon cas, eh bien, on va craquer mentalement. On va compulser avec la nourriture, mais dans sa tête. On va se nourrir de recettes de cuisine et de lectures au sujet de la cuisine et de photos, de plats et toutes ces choses-là. Et puis aussi, pourquoi on n'en veut pas ? Parce que ça ne fonctionne pas sur le long terme. Sur le long terme, au bout d'un moment, on va péter un câble, on va avoir envie de tout envoyer bouler, on va reprendre le poids qu'on a perdu, voire un peu plus. on va se réfugier dans de la nourriture qui ne nous fait pas du bien, mais parce qu'on se sera tellement privé qu'au bout d'un moment, bah, le cru, tout ça, on va l'envoyer valser et on va se retrouver dans ce rayon du supermarché qu'on a évité depuis toutes ces années. Du coup, ça va aller à l'encontre de nos valeurs même, de nos choix, de plein de choses. Ça ne va pas nous faire vraiment du bien. Donc du coup, on n'en veut pas en fait d'un régime. Parce qu'au bout d'un moment, ça va se retourner contre nous. Et du coup, comment le déceler? Eh bien là, je vais vous aider avec quelques petites questions justement que vous pouvez vous poser. Si quelqu'un vous propose une méthode, si quelqu'un vous propose une technique, si quelqu'un vous propose un produit, vous allez pouvoir construire réellement votre pensée et votre réflexion autour de ces sujets que sont le poids, la santé, qui sont bien plus complexes qu'un bouquin de 200 pages en 5 parties avec ça il faut faire, ça il faut pas faire, ça c'est bien et ça c'est pas bien. Je crois que c'est la pensée qu'on a, hein, qu'on récupère autour de soi. Beaucoup de personnes qui nous proposent des méthodes, des livres, des machins, des trucs pour perdre du poids et être en santé très longtemps, nous vendent cette idée que c'est facile et que c'est simple. Mais en réalité, le poids, la santé, c'est très complexe. C'est pas 1 plus 1 égale 2. C'est un ensemble de tellement de choses et de tellement de facteurs qui ont bien souvent rien à voir, en tout cas pas directement, avec ce qu'on va mettre dans sa bouche ou pas, et le nombre de calories qu'on va dépenser ou pas. L'un des premiers facteurs, j'ai envie de le rappeler, un des premiers déterminants de la santé, ça va être l'endroit où on est né. Ça va être notre milieu socio-culturel. Ça va être des facteurs économiques. Que vous mangez du quinoa ou pas, ça va arriver on est bien loin après le boulot que vous exercez, si vous avez pu aller à l'école ou non, et si vous avez été stigmatisé parce que vous faites partie d'une minorité sociale et culturelle. Donc, un régime, vraiment, c'est quelque chose qui va venir de l'extérieur. Ça ne va pas être quelque chose qui va être guidé de l'intérieur. Et donc, quand je prends un livre, ou quand j'écoute une vidéo, ou quand je vais consulter quelqu'un, les différents petits points sur lesquels je peux porter mon attention pour savoir si on me propose un régime ou pas, ça va être, est-ce qu'il y a des règles à suivre ? Et des règles surtout rigides à suivre. Est-ce qu'il y a un présupposé derrière ? C'est un peu celui dont je vous parlais tout à l'heure. Est-ce que le présupposé, c'est que mon poids, ça ne va pas, qui je suis, ça ne va pas, et il faut que je le change ? Absolument. Est-ce qu'il y a un gourou dans cette histoire ? Est-ce qu'il y a une personne qui apporte la bonne parole ? Une personne avec un certain charisme ? Une personne qui va me dire ce que j'ai le droit de faire et pas le droit de faire ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va un peu porter ce truc ? Et là, j'ai de nombreuses personnes qui me viennent en tête quand je vous dis ça, notamment en termes d'alimentation et de santé. Donc je vous invite aussi à réfléchir. Quand je vous parle de gourou dans l'alimentation et dans la santé, vous pensez à qui ? Toutes ces personnes qui prêchent, entre guillemets, la bonne parole alimentaire et physique. Est-ce qu'on ne vous vend pas un truc miracle, à coup de baguette magique ? C'est le produit, la technique, le truc, l'aliment qui vous manquait, qui va enfin faire la différence ? Et généralement, je vous parlais au tout début de règles, parce que pour moi, les règles alimentaires, c'est vraiment un gros sujet qui va justement constituer un régime. Et vous savez, généralement, on les trouve sous forme de les 5 manières de, les 10 façons de, le truc qu'il faut faire à la fin de votre repas pour perdre du poids, ou le truc qu'il faut ingérer avant votre repas pour être en bonne santé. Est-ce qu'il y a une place dans ce truc qui m'est proposé pour l'autonomie de l'individu. Je vais vous prendre un exemple que je vois souvent pour les personnes qui souffrent de problèmes digestifs ou alors qui sont au régime pour perdre du poids et qui me disent « mais moi j'ai vu pas mal de personnes et qui m'ont proposé du coup de faire trois repas dans la journée sans collation avec un gros petit déjeuner et puis un repas plus léger le soir. » Sauf que moi, bah, le soir, c'est mon seul repas convivial de la journée où je suis avec ma famille. Le matin, je me lève à l'arrache, puis j'ai pas vraiment faim. C'est pas vraiment adapté à la personne, en fait. C'est assez rigide et il y a très peu de place pour l'autonomie de l'individu. L'autonomie de l'individu, c'est est-ce que la personne qui va suivre la méthode, le conseil, le truc, le machin, va pouvoir apporter qui elle est dans le processus, ses préférences, son emploi du temps, ses finances aussi. Nombre de fois où j'ai lu de manger tel aliment, mais bien souvent, ces aliments-là, tel aliment, tel repas, ces trucs-là, ça coûte beaucoup d'argent. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ces ressources financières-là, ou en tout cas qui ne peuvent pas les consacrer au budget repas. Donc tout ça, c'est à prendre en compte, en fait, dans une mise en place de quelque chose autour de l'alimentation et du rapport au corps avec une personne. Ce que je vous disais quand je vous parlais de régime, est-ce que je peux échouer? Est-ce que je peux réussir? Est-ce qu'il y a une notion de moralité là-dedans? Est-ce que je suis une bonne personne si je fais ça et une mauvaise personne si je fais pas ça? Est-ce qu'il y a des aliments ou des choses à faire qui sont bonnes ou mauvaises? Est-ce que la science derrière tout ça, elle est validée à 100%? Ou est-ce qu'il y a des biais dans ces études-là? Ça, c'est un vrai truc que j'ai découvert vraiment récemment. Pour moi, avant, quand surtout venant pas du domaine scientifique, quand j'entendais quelqu'un qui parlait d'études scientifiques ou de sciences et tout ça, j'étais là, waouh, ok, alors ça devrait être vraiment vrai. Mais en fait, quand on se rend compte de la manière dont les études sont réalisées, par qui elles sont financées, quels facteurs elles vont prendre en compte ou ne pas prendre en compte, on se rend compte que c'est très difficile d'avoir une information qui est fiable à 100%. Et que même si une étude, elle nous prouve que si ceci ou cela, ben il faut attendre de voir s'il n'y en a pas d'autres qui vont prouver l'inverse ou voir comment l'étude a été réalisée et comment et par qui. Et généralement, les professionnels de la nutrition sont vraiment très sensibles à ça. Et c'est pour ça que ces informations ne devraient pas être ensuite reprises par les médias qui vont nous dire « attention, le sucre est plus addictif que la cocaïne ». Ce qu'on ne nous dit pas dans cette étude-là, par exemple, je pense à elle, c'est que déjà l'étude a été réalisée sur des rongeurs et que les rongeurs n'avaient pas eu accès à de la nourriture pendant plusieurs heures et que bien sûr, au moment de choisir entre le sucre et la cocaïne, ils ont préféré le sucre parce que juste leur cerveau, leur petit corps en avait besoin. Ils n'avaient pas mangé. Bref. Et puis donc, comment tout ça s'est relayé ensuite par les médias qui vont juste prendre une information de l'étude et la mettre en avant avec des gros titres et... Voilà. Donc, quelques éléments pour vous aider justement à vous demander ou à savoir si telle méthode, tel bouquin, tel truc qui m'est proposé, que ce soit pour prendre soin de ma santé, de mes maux de ventre notamment, je pense, moi j'ai cherché pendant très longtemps des solutions à mes maux de ventre et je suis beaucoup tombée sur des trucs, et même des personnels, hein, des professionnels qui me disaient « ok, t'as le droit de manger ça, mange pas ça, ça c'est déconseillé, ça c'est pas bien, surtout pas de 3 repas par jour, pas de collation entre les repas, surtout tu manges dans le silence et dans le calme absolu, sinon ça va tout dérégler ». C'était plutôt assez rigide, assez flexible. Puis aussi, une autre chose que j'aimerais intégrer là-dedans, c'est est-ce que la personne qui vous reçoit, soit en rendez-vous, ou alors la personne que vous écoutez ou qui vous délivre des conseils sur Instagram, est-ce qu'elle prend en compte votre historique, votre histoire? Est-ce qu'elle prend en compte si vous avez souffert ou souffrez encore de troubles du comportement alimentaire ou si votre manière d'appréhender la nourriture elle est plutôt sereine ou pas, parce qu'en fonction de la personne qu'on a en face de soi, les conseils qu'on va donner ne sont pas les mêmes. Une personne qui n'a pas du tout une façon de voir l'alimentation comme quelque chose à contrôler ou quelque chose de dangereux pourra plus facilement recevoir un conseil sur bah, il vaut mieux éviter ça et privilégier ça. Parce que dans son esprit à elle, elle ne va pas le tordre et l'utiliser contre elle. Par contre, une personne qui aura suivi de nombreux régimes dans sa vie, qui aura un rapport à l'alimentation compliqué, qui aura souffert d'une alimentation troublée ou de troubles alimentaires, elle ne va pas recevoir l'alimentation de la même manière. Et donc moi, je crois que ça, c'est intéressant. Enfin, vraiment, est-ce que cette personne qui a écrit ce bouquin, est-ce qu'elle a pensé aux personnes qui souffrent dans leur tête de leur rapport à l'alimentation et à leur corps? Ça, c'est vraiment très important pour moi. Et bien souvent, la réponse, c'est non. Bien souvent, les personnes qui ont écrit ces bouquins-là n'ont pas pensé à toutes celles et ceux qui se prennent le chou H24 sur ce qu'elles vont manger et pas manger. À la fin de la journée, bien évidemment, vous faites comme vous voulez. Mais une question que j'ai envie quand même de vous soumettre, pour en rajouter un petit peu une couche, c'est juste de vous demander en fait comment je vais utiliser ces informations. Est-ce que je vais les utiliser pour moi ou est-ce que je vais les utiliser contre moi? Parce que à la fin de la journée, même si un truc est validé à 100% par la science, ne contient pas de moralité, n'a pas de règles, pas de supposés, présupposés, supposés et présupposés, pas de gourou, comment vous allez vous en servir va avoir toute son importance. C'est très intéressant de voir comment notre manière, par exemple, de penser le stress va rajouter du stress pour nous ou non. Parce que en soi, et ça c'est certaines personnes qui disent ça, et je trouve ça assez intéressant, il y a des études qui ont été faites sur ce sujet-là, et encore une fois, hein, les études peuvent tout et rien dire, mais qui disent qu'en fait, en réalité, c'est pas vraiment le stress dans votre corps qui est problématique, c'est comment vous concevez ce stress. Notre manière de concevoir et de percevoir les choses va profondément impacter notre réalité physique. Il y a beaucoup de personnes pour qui c'est pas le gluten qui est problématique, c'est leur manière de penser le gluten. Et donc comme elles croient que le gluten c'est pas bon pour elles, et ben du coup leur corps va en fait gérer le gluten comme si effectivement c'était pas bon pour elles. C'est ce qu'on appelle les effets placebo, les effets nocebo. Et ça, c'est un vrai truc. Et donc, du coup, même si, OK, cette méthode me vend quelque chose... Et ça, c'est pareil avec l'alimentation intuitive, hein, qui est en soi, quelque part, une méthode, faute de meilleurs mots. Et moi, qui m'a fait profondément du bien, mais au début, avant de me faire profondément du bien, je l'ai retournée contre moi-même. Je m'en suis servie contre moi-même. C'était devenu un nouveau régime. Donc même si un truc est plutôt « clean », entre guillemets, à voir comment vous allez l'utiliser pour vous ou contre vous, parce qu'à la fin de la journée, c'est ça qui va faire la différence. Donc moi, aujourd'hui, comment je me fais plus affecter par toutes ces choses-là? La méthode en question qui m'a inspiré cet épisode, je l'ai lu, enfin, j'ai emprunté le bouquin, je l'ai lu, je l'ai parcouru et je l'ai lu, et moi, ça ne m'a pas du tout fait trembler. Dans le passé, j'aurais vider tous mes placards, tout jeter à la poubelle, j'aurais rempli mon frigo avec des nouveaux trucs, j'aurais tout modifié dans ma journée pour pouvoir suivre ce truc. Et aujourd'hui, en fait, juste, bah, je me rends compte en fait qu'il n'y a pas une vérité absolue dans ce monde et que peut-être que la personne qui a écrit ce bouquin, bah, voilà, ça a marché pour elle, ça a marché pour d'autres personnes, du coup, elle en a fait un livre. Et tant mieux pour elle, j'ai envie de vous dire. Mais moi, je sais que de procéder comme ça, de suivre une méthode, de suivre un truc, avec des règles et quand c'est trop rigide. Et moi, ça ne me fait pas du bien. Et donc, comme c'est ça, c'est ma pensée aujourd'hui, je sais ce qui est bon pour moi. Je suis à l'aise dans mon corps, je suis à l'aise dans ma manière de penser la nourriture et ma silhouette. Du coup, je n'ai pas besoin d'un nouveau truc qui va révolutionner ma vie. Je suis à l'aise avec les jours où ça ne va pas et les jours où ça va. Je me suis acceptée comme être humain qui vit son expérience de la vie. Et comme j'ai cette croyance-là, et que je suis profondément ancrée en elle. Le nombre de fois où j'ai dit profondément aujourd'hui, il y en a 3 ou 4 fois au moins. Mais du coup, moi, ça me fait du bien et je n'ai plus besoin d'aller chercher un autre truc. Et c'est pour ça que je peux lire des posts sur les réseaux sociaux et lire des témoignages et lire des machins qui disent « essayez ça, c'est enfin le truc ». Et moi, je suis là « bah ok, cool pour vous, mais moi, non ». Moi, je sais aujourd'hui. Je suis centrée sur moi et mes ressentis internes. Et donc finalement, même si une étude ou un nouveau produit ou un nouveau truc venait me dire que « waouh, c'est enfin le secret, enfin le truc qui va venir chambouler l'univers, moi je serais là, bah cool pour vous hein, en fait. Moi là, je reste avec moi comme on sait. Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas prête à me remettre en question. Mais tant que je me sens centrée, tant que je me sens alignée avec mes choix, mes valeurs, la manière dont je pense et ressens les choses, ben, j'ai pas besoin, finalement. Donc voilà, j'espère que cet épisode pourra vous aider. Je tenais aussi à vous dire que je vais mettre le podcast, les vidéos, tout ça un petit peu en pause pendant quelques semaines pour vivre ma fin d'année comme j'ai envie de la vivre. Et je reviendrai dans le futur avec des nouvelles idées, des nouveaux projets, des plein de nouvelles choses à vous soumettre. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez poursuivre votre exploration et vous faire accompagner, je peux vous aider à transformer votre rapport à la nourriture afin de vous sentir enfin bien dans votre corps, votre tête et votre assiette. Rendez-vous vite sur auvertavecLily.fr, rubrique coaching pour en savoir plus. Poursuivons également cette discussion sur Instagram et Facebook @auvertavecLily. À bientôt.